Emmanuel Bove, un déséquilibré. Monsieur Lecoffre monta lentement l'escalier étroit et obscur de la maison de la rue des Lombards. C'était un petit homme de 50 ans, aux yeux bleus, aux mains très blanches et très soignées. Arrivé au quatrième, il prit sa clé, ouvrit la porte, une vieille porte dont le panneau du haut était fendu. « C'est toi, Ernest ! » cria une voix d'homme. « Oui, c'est moi. » « As-tu refermé la porte, imbécile ?»« Naturellement, je la referme toujours. » Ernest Lecoffre enleva son pardessus, le secoua comme un tapis, le jeta négligemment sur une chaise. Puis il entra dans la chambre, un atelier plutôt, où se tenait l'homme qui lui avait crié « As-tu fermé la porte, imbécile ?» Il était assis devant un établi, une visière de carton vert sur le front. Il polissait des pipes d'écume avec du papier de verre. « Tu vois, » dit-il sur un ton assez désagréable, « pendant que tu vas au cimetière, moi, je travaille. » Les yeux d'Ernest Lecoffre, à la lumière de la lampe, paraissaient plus beaux encore. On eût dit ceux d'une fillette. Il sourit. « Oui, j'ai été au cimetière, mon cher Joseph. Malheureusement, avec cette neige, je n'ai pas pu trouver la tombe de ma pauvre femme. » « Il neige ? Voilà, quand on travaille, on ne sait rien, on vit comme une bête, on ne sait même pas quand il neige. » Il y avait près de 3 mois qu'Ernest habitait chez son frère Joseph. Il était arrivé un matin, sans valise, avec sa canne de jonc véritable, car si l'aîné n'était que polisseur de pipe, le cadet avait fait un beau mariage. Il avait 25 ans. C'était toute une histoire dont on parlait encore à Orléans, patrie des Lecoffre. Ernest était donc arrivé un matin, sans bagages, les traits ravagés. « Ma femme vient de mourir, » avait-il dit. « Je viens de passer une semaine affreuse. Je ne peux plus être seul. Veux-tu me laisser habiter chez toi ? Naturellement, tu me diras ce que je te dois. » Joseph avait accepté, avec d'autant plus de plaisir qu'il soupçonnait son frère d'avoir fait un bel héritage. Mais lorsqu'un mois plus tard, il laissa entendre dans la conversation qu'il avait besoin d'argent, et qu'Ernest feignit de ne pas comprendre, tout se gâta. 2 jours s'écoulèrent, il ne neigeait plus. Depuis le matin, le soleil n'avait pas été voilé un instant par un nuage. « As-tu refermé la porte, imbécile ?»« Oui, Joseph, j'ai refermé la porte. » Ernest entra dans l'atelier, s'approcha de son frère, mais il ne sourit pas cette fois. « C'est étrange, dit-il, je n'ai pas encore pu aujourd'hui trouver la tombe de ma femme. » Ernest venait à peine de prononcer cette parole que les doigts de Joseph s'immobilisèrent. Il ôta sa visière, regarda fixement son frère. « Tu devrais pourtant savoir où elle est depuis le temps que tu y vas. C'est justement pourquoi je suis surpris. » Joseph se leva, fit quelques pas, puis, s'approchant de son frère, lui prit affectueusement le bras. « Pour revenir, demanda-t-il, comme s'il posait une question sans intérêt, est-ce que tu as eu des difficultés ?» « Je ne te comprends pas. En sortant du cimetière pour revenir rue des Lombards, est-ce que tu as trouvé facilement ton chemin ?»« Rue des Lombards ?»« Je te parle de la rue des Lombards parce que nous habitons rue des Lombards. »« Naturellement. Enfin, est-ce que tu comprends, oui ou non ?»«
Oui. »
Joseph lâcha le bras de son frère. « Allons, va te coucher, tu es fatigué. » Le dimanche suivant, après le déjeuner, le polisseur de pipe dit à Ernest « Mets ton chapeau, ton pardessus, nous allons faire un tour au bois. » Puis, au moment de sortir, il ajouta « Laisse ton portefeuille à la maison, c'est plus prudent. Le dimanche, dans le métro, il vaut mieux ne rien avoir sur soi. » Ils descendirent à la porte Maillot. La journée n'était pas particulièrement indiquée pour une promenade au bois. Il avait plu à torrents la veille et l'avant-veille. De grosses gouttes tombaient encore des arbres. Une brume froide flottait au-dessus des pelouses et dans les allées. Ils marchèrent pendant 3 quarts d'heure à travers bois. C'était plus agréable, paraît-il, de marcher sur les feuilles mortes que dans la boue des chemins.
« Ça fait du bien, n'est-ce pas ? » dit Joseph.
« Oui, mais où allons-nous ? »
« Nulle part, nous nous promenons. »
« Tu n'as pas peur qu'on se perde ? Moi, c'est simple, je ne sais plus où je suis. »
« Oh, on retrouvera toujours son chemin. » Tu n'as pas envie de manger quelque chose ?
Déjà ? C'est parce que j'aperçois un kiosque là-bas. Je vais y aller quand même.
Attends-moi, là, près du banc, j'ai envie de gaufres. » Joseph s'éloigna à grandes enjambées sans se retourner. Dans l'allée des acacias, il arrêta un taxi. « Je suis tout de même arrivé à me débarrasser de lui, » murmura-t-il en se laissant tomber sur la banquette. 4 jours plus tard, Joseph prenait son petit déjeuner lorsqu'il lut dans le journal la nouvelle suivante. À Jouy-en-Josas, les gendarmes ont recueilli la nuit dernière un homme paraissant âgé d'une 50aine d'années. Le malheureux, frappé d'amnésie, errait depuis plusieurs jours dans la campagne aux environs de Versailles. Il était à bout de force. Après lui avoir fait absorber un substantiel repas, M. Georginet, capitaine de gendarmerie, a pu interroger le malheureux. Celui-ci ne se souvient de rien. Il n'avait aucun papier sur lui. Nous publions sa photographie dans l'espoir qu'elle tombera sous les yeux d'un parent. Joseph Lecoffre se garda bien d'aller reconnaître son frère. « Ils n'ont qu'à l'envoyer dans un asile, » pensa-t-il. Mais le lendemain, en ouvrant son journal, il ne put retenir un cri. Voici ce qu'il lut. « Grâce à la photographie que nous avons publiée, l'amnésique de Jouy-en-Josas a été reconnue hier dans la soirée par sa femme. Il s'agit d'un riche et honorable propriétaire de Paris, M. Ernest Lecoffre, habitant Place Saint-Michel. À la vue de sa femme, il a recouvré instantanément toutes ses facultés. Ce qu'il y a d'étrange dans cette aventure, c'est que M. Lecoffre est certain d'avoir quitté le domicile conjugal, non pas il y a 5 jours, mais il y a environ 3 mois. Voici comment les choses se seraient passées. M. Lecoffre aurait été en procès avec un de ses locataires. Celui-ci, le rencontrant dans la rue, se serait approché de M. Lecoffre et, pour se venger, lui aurait dit sur un ton profondément peiné « Votre femme vient d'être tuée par un autobus. C'est affreux, dépêchez-vous de rentrer. » À partir de ce moment, M. Lecoffre ne se souvient plus de rien. Quant à Mme Lecoffre, elle serait heureuse de connaître la ou les personnes qui ont si charitablement recueilli son mari ces 3 derniers mois afin de leur témoigner son infinie gratitude. Joseph se leva d'un bond, revêtit à la hâte son complet des dimanches. Quand il arriva à la gendarmerie de Jouy-en-Josas, M. et Mme Lecoffre, qui étaient revenus pour remettre une gratification aux gendarmes, s'apprêtaient à monter dans leur voiture. « Ernest !» s'écria Joseph. « Qui êtes-vous » demanda Mme Lecoffre avec froideur. « Son frère, je suis son frère. C'est moi qui l'ai recueilli. Il y a 3 mois, il ne savait où aller. Il est venu me demander l'hospitalité. C'est mon frère, je lui ai dit, tu es chez toi. » « Ernest !» demanda Mme Lecoffre. « Est-ce que c'est vrai ?» M. Lecoffre regarda Joseph avec curiosité, mais sans paraître le reconnaître. « Non, » dit-il enfin. « Voyons, Ernest, il y a encore 5 jours, tu étais à la maison rue des Lombards. Tu me regardais travailler. Nous évoquions des souvenirs de jeunesse. Venez, madame, venez chez moi. Il y a des témoins. Tout le monde vous dira que... » Joseph ne put continuer, les gendarmes, sur un signe de Mme Lecoffre, s'étant interposés. Et comme le policier de pipe gesticulait, essayait de se faire entendre quand même, l'un d'eux le prit par le bras, l'entraîna à l'écart et, paternellement, lui dit à voix basse « Voyons, n'insistez pas, vous êtes le 9e depuis ce matin qui venez pour la récompense. Nous commençons tous à en avoir assez. »